Blog, and you're listening to CKUT 90.3.
Bonsoir, ici Laurent Brou, directeur général de la Fondation Émergence et co-président d'Égypte. Vous écoutez Les Beaux Sons avec Nathalie Dipalma sur les ondes de 90.3 FM.
Bonsoir. Le 17 mai, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Nous avons le plaisir de recevoir Laurent Brou pour nous parler de la campagne 2024. Et vous aurez l'occasion d'entendre ou de réentendre l'entrevue que j'ai faite en 2021 avec cette alliée extraordinaire qu'est Jeannette Bertrand. À tout de suite.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle aussi s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Nous sommes avec Laurent Brou, directeur général de la Fondation Émergence, pour nous parler de la campagne de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie du 17 mai 2024. Bonsoir, Laurent.
Bonsoir.
On entend beaucoup parler du recul des droits LGBTQ+, ici et à travers le monde, et tu es bien placé pour en parler, puisque tu es aussi co-président d'Égide Alliance internationale francophone. Pour ceux et celles qui ne suivent pas l'actualité, est-ce que tu peux nous donner des exemples des reculs qui nous guettent?
Oui, bien, il y en a plusieurs, en effet, à travers le monde, là, je dois dire. C'est pas mal préoccupant. On peut penser, par exemple, à la criminalisation de l'homosexualité en Ouganda. On peut penser aussi aux États-Unis, où il y a plus de 400 projets de loi en cours là, d'études pour restreindre les droits des personnes LGBTQ+. Donc, 400, c'est vraiment énorme. Ici même, moins sur le plan législatif au Canada, mais on peut penser en fait à la hausse des crimes haineux visant les personnes LGBTQ+. On peut penser également au Million March Children qui a eu lieu dernièrement en 2023 pour dénoncer dénoncer, en fait, les droits pour les jeunes trans mineurs. Donc, il y a du mouvement qui se passe un peu partout dans le monde. Fort inquiétant, c'est pas juste... on a l'impression souvent que c'est plus, mettons, en Afrique, en Asie. Maintenant, c'est vraiment en Occident aussi qu'on dénote un recul.
Et c'est ce qui vous a inspiré pour la campagne contre l'homophobie et la transphobie 2024, qui, comme à chaque année, est assez percutante. La phrase à retenir cette année, c'est « Quand les droits LGBTQ+ reculent, toute la société revient en arrière ». Parle-nous de cette campagne 2024.
Bien, on se colle en fait sur l'actualité. Donc, comme on vient juste d'en parler, là, il y a des reculs un peu partout dans le monde. Ça nous préoccupe. Puis, en analysant un peu les discours qui soutiennent ces discours-là, on se dit, ben finalement, c'est des idées qui sont dépassées. Donc, le thème de la campagne, c'est de dénoncer les idées dépassées. Puis, on les met de l'avant, vraiment, dans une vidéo, dans nos caisses de communication, pour rappeler que, dans le fond, c'est des messages, c'est des idéologies qui viennent d'une autre époque, puis qu'on est rendu vraiment ailleurs. Puis, on cherche à rallier nos alliés, faire un appel, en fait, aux alliés, parce qu'on n'aime pas ce qui se passe là, depuis 2 ans, et on les invite vraiment être vigilant puis d'être présent quand il y aura un basculement qui pourrait faire reculer nos droits, notamment ici au Québec puis au Canada. Dans notre campagne, notre pièce de communication principale, là, c'est vraiment une vidéo qu'on vient de lancer sur les réseaux le 30 avril. Et dans cette vidéo-là, qui est très courte, là, mais le but, c'est vraiment d'éveiller les consciences, là, comme quoi qu'il y a des prises de position un peu partout dans le monde. On met même des politiciens, bon, on parle de Donald Trump, tout ça, qui visent en fait les communautés LGBTQ+. Donc, ces discours-là sont tout à fait publics. Là. On les retrouve sur les réseaux sociaux, sur le web. On n'a rien inventé. Là. Et on montre, en fait, la problématique qui est en cours où il y a des actes de violence. Donc, c'est assez choc, mais je pense que c'est nécessaire de le faire. C'est la mission de la Fondation que de relever la problématique que vivent nos communautés, puis de créer, en fait, une espèce de prise de conscience là, pour qu'on s'unisse, qu'on se rassemble, puis qu'on essaie de protéger nos droits.
On sait que quand nos droits avancent, évidemment, il y a comme un mouvement qui veut nous faire reculer. Là, on était rendu quand même assez loin dans nos droits, si on pense aux 30 dernières années.
Bien, en fait, ce que les études démontrent, notamment les rapports de Ilgauer, c'est qu'on est dans la phase de backlash. Donc, c'est un petit peu comme... En fait, le concept de backlash, ou en français, effet de ressac, ça vient beaucoup du mouvement pour le droit des femmes. Donc, quand les droits des femmes ont commencé à progresser, mais il y a eu une réaction... C'est souvent négatif. Hein? Fait que c'est un peu la même chose pour les communautés LGBT, dans le sens que la dernière décennie, il y a eu énormément de progrès, il faut le dire, puis c'est tant mieux, mais il y a un effet de ressac dans le sens que plus on devient visible, plus on prend en liberté, plus les réactions homophobes, transphobes, lesbophobes, biphobes se manifestent. C'est un peu comme quand on est dans le placard individuellement, là, comme personne, mais on est dans un mécanisme de défense. Donc, c'est la lesbophobie, l'homophobie, on la ressent pas nécessairement de manière manifeste parce qu'on est justement caché. Mm-hmm. Mais c'est quand on sort du placard qu'on s'affirme que là, non seulement il y a des alliés d'un côté, mais il y a les personnes moins tolérantes qui ont des propos, des insultes, homophobes, transphobes, lesbophobes. Puis, c'est un peu la même chose au niveau sociétal. Quand toutes nos communautés commencent à s'affirmer, sortent du placard, prennent leur place qui leur revient, mais c'est là qu'il y a des réactions négatives. Puis, je dirais que dans les 2 dernières années, c'est vraiment cet effet de ressac-là qu'on ressent.
Et les écoles ont toujours été très impliquées dans les campagnes reliées à la journée du 17 mai. Et la population peut aussi s'impliquer. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle façon?
Bien, dans notre campagne, en fait, on envoie du matériel. En plus de la vidéo, là, on a du matériel d'éducation pédagogique qu'on envoie dans les écoles. Donc, on a envoyé du matériel dans 1600 écoles au Québec, des affiches, des autocollants, des dépliants. Le message est un petit peu différent que la campagne dénoncer les idées dépassées. Puisqu'on veut quand même que ça soit bien adapté au milieu scolaire. Les écoles sont aussi invitées à organiser des activités pour le 17 mai, qui est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Fait que ça peut être des kiosques, des projections de films, des conférences. Il y a toutes sortes d'activités. On a même vu des muffins arc-en-ciel, des jeux, toutes sortes d'affaires qui peuvent être faites. Donc, les écoles, c'est vraiment un point important parce que, je veux dire, c'est les générations futures. C'est là que l'éducation commence, puis que l'apprentissage à tolérer, accepter et inclure les personnes LGBTQ+ ça commence à l'école. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là.
Puis, il faut savoir que les affiches sont disponibles en plusieurs langues et peuvent être commandées sur votre site web de la Fondation Émergence.
Oui, sur le site fondationémergence.org. Puis, les gens peuvent commander du matériel aussi de nos campagnes précédentes. Puis, de nos autres programmes, on a des programmes pour le milieu de travail, pour les résidences pour aînés. Donc, on a pas mal de choses là, qu'on offre à tout le monde.
Merci beaucoup, Laurent Brault, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
C'est pour moi un grand privilège et un immense honneur d'accueillir Mme Jeannette Bertrand aujourd'hui en cette journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Comédienne appréciée, auteure prolifique et authentique, dramaturge douée, franche et sincère, battante et féministe de la première heure, notre invitée n'a plus besoin de présentation tellement elle a touché à plusieurs domaines dans sa longue carrière. Elle a aussi touché plusieurs d'entre nous droit au cœur par son empathie et son apport pour la communauté LGBT. Nous n'en serions pas là où nous en sommes aujourd'hui sans cette grande dame qui a su démystifier nos réalités auprès de la population québécoise. Madame Bertrand, bonsoir et un grand merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir. Bonsoir, ça me fait plaisir.
Vous avez été la première journaliste québécoise à parler ouvertement de l'homosexualité à la télévision.
Oui.
Vous avez toujours mené un combat courageux contre les préjugés et les tabous, et nous sommes nombreux à vous en remercier. À quel moment avez-vous commencé à vous intéresser à la communauté LGBT et de quelle manière?
Bon, moi, je suis née en 1925. Donc, j'habitais dans un quartier populaire, ce qu'on appelle le Faubourg Amelasse, on ne l'appelle plus comme ça. Alors, c'était des gens pauvres qui travaillaient à l'usine chez McDonald's Tobacco. Mon père avait un petit magasin, on vivait au-dessus du magasin. Et je n'ai jamais entendu parler d'homosexualité, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai 35 ans et puis je suis mariée, j'ai déjà deux enfants. Et puis, j'ai un courrier du cœur, le Petit Journal. C'est un journal qui sortait le samedi, le dimanche et après la messe, tout le monde achetait le Petit Journal. Et j'avais le courrier du cœur. Et j'avais accepté le courrier du cœur en disant, ben il faut qu'on ne coupera pas dans les lettres, on va couper ce qui est trop, mais on ne changera pas la langue, pas le langage. Or, qui est-ce qui m'écrivait surtout? C'était parce que personne n'avait droit à la parole à ce moment-là. Alors, il y a longtemps de ça. Alors, c'était des jeunes garçons, surtout des jeunes garçons de la campagne, qui disaient, je viens de découvrir que j'aime les garçons, et je suis le seul comme ça au monde et je vais me tuer parce que mon père m'a dit que si jamais il découvrait qu'il était pour se pendre, un autre qui disait « mon père va se tuer, s'il apprend ça, alors je suis aussi bien de me tuer », c'était épouvantable. Alors moi, j'avais 35 ans, j'avais un diplôme en histoire et en littérature. Alors j'avais demandé « est-ce que je peux consulter des psychologues ?» Il n'y en avait pas beaucoup. Alors, j'ai consulté, puis on m'a expliqué ce que c'était l'homosexualité, puis qu'il n'y avait aucun problème là. Alors, j'ai répondu à ceux qui m'écrivaient, eh bien, c'est tout à fait naturel, et puis il faut que ça change, et puis il faut que les parents changent. Petit à petit, sans m'en apercevoir, les hommes homosexuels, les hommes gays, pas les femmes, c'est encore plus caché à cette époque-là. Alors, ils sont mis à m'écrire. Et je suis devenue, sans m'en apercevoir trop, une espèce de personne qui approuvait l'homosexualité, qui pas l'approuvait pour dire « faites ça dans la vie », mais qui disait ben, « c'est comme ça, puis il n'y a rien là, puis bon, il faut que les parents admettent que bon, si son fils était différent, il faudrait bien qu'il l'accepte, alors il est différent, point. » Et puis, c'est devenu tellement important que des fois, j'étais sur la rue, et puis qu'il y avait un garçon qui m'approchait, puis moi, j'ai toujours eu peur du viol, alors c'était assez fréquent quand j'étais jeune. Alors, je me disais toujours, qu'est-ce qu'il me veut? Mm-hmm. Puis c'était un garçon qui disait, vous m'avez sauvé la vie. Je vous ai entendu lire ou je vous ai lu, puis j'ai su que vous disiez que c'était pas grave être gay, que c'était naturel et que c'était correct. Alors, c'est comme ça que je suis devenue, que je suis très populaire auprès des gays.
Oui, puis en plus, vous en avez parlé avant même que l'homosexualité soit décriminalisée en 1969.
Oui, oui, ah ben oui, ah tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Mais c'était dans ma... Moi, je suis une rebelle. Et alors, j'étais contre l'injustice, contre... J'étais pour la... Comme les avocats défendent la veuve et l'orphelin, mais surtout ceux qui sont pas heureux dans la vie. Alors, ce que je faisais, c'était de donner de l'espoir aux gens qui étaient pas heureux. Alors, à cette époque-là, c'était épouvantable. Montrer son homosexualité, c'était terrible. Et c'est terrible surtout de la part des hommes. Les femmes, les mères, elles acceptaient plus facilement. Mais les pères avaient une haine. Écoute, j'ai des amis qui m'ont, des amis gays qui m'ont dit, mon père m'a dit, j'aime mieux me tirer une balle dans la tête de voir toi qui es homosexuel. C'est pas des farces, là.
Oui.
On est parti de loin, hein? On est parti de loin.
Et il fallait avoir une grande ouverture d'esprit quand même. Vous dites que vous étiez une rebelle, mais vous avez aussi une grande ouverture d'esprit.
Oui, oui, oui. Et pas juste l'ouverture d'esprit. Je pense qu'il fallait de l'audace. Puis moi, je suis quelqu'un qui ose. Tu sais, je suis quelqu'un qui... personne n'en parle de ça, je vais en parler, moi, tu sais. Il y a beaucoup de ça dans moi. Moi, je suis... Tu sais, l'injustice, pourquoi je veux tant l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est que j'ai vécu cette injustice-là. J'avais trois frères où tout leur était dû et moi, j'étais rien qu'une fille. Alors, tu sais, je suis partie de là, là. Mais quand j'étais jeune, moi, les garçons, là, tu sais, moi, j'avais pas d'argent de poche parce que mon père disait, alors que c'était un homme extraordinaire, mais il disait, mais oui, mais les garçons vont te sortir, t'as pas besoin d'argent. Mmh. Moi, j'avais pas besoin de faire des études. Mon père m'a dit, tu vas laver des couches. Pourquoi tu vas à l'université? J'ai tellement insisté que je suis allée. Mais tu sais, j'étais quelqu'un qui voulait brasser l'ignorance dans laquelle on était. Une ignorance terrible. Tu sais, pendant la pandémie, j'ai eu l'idée que les personnes âgées écrivent leur biographie.
Oui.
Mais la misère, d'où on vient? D'où on vient? C'est pas d'instruction. C'est pas d'instruction. Pauvreté, misère intellectuelle, misère morale. C'est de là qu'on vient. Je pense que si on regarde ça de 100 ans, il y a 100 ans, je pense qu'on a fait des pas de géant.
Oui, absolument.
Surtout depuis les années 70.
Oui. Dans L'amour avec un grand A, il y a un épisode qui m'a beaucoup marqué, vous vous en doutez peut-être.
Oui, c'est les deux filles. Hein?
Oui, c'est On ne choisit pas qui on aime avec Mireille Desglun.
Oui, oui.
Qui, si je me souviens bien, a été diffusé en 1992.
Oui.
Pour ma part, je n'avais pas encore fait ma sortie du placard et cet épisode sur l'homosexualité féminine m'a beaucoup touchée et aidée pour la suite des choses. Tellement que peu de temps après, je suis devenue présidente de l'Association des gays et lesbiennes au cégep du Vieux-Montréal. Et dans la foulée, j'ai eu le plaisir d'être invitée à votre émission Jeannette tout court.
Ben voyons donc.
Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Non.
Non.
Écoute, ça a duré 10 ans. J'ai vu tellement de monde.
C'était avec Michel Tremblay qui parlait de son livre La nuit d'un prince charmant. On était deux jeunes lesbiennes et il y avait deux jeunes gays aussi. Qu'est-ce qui vous a encouragé à faire une dramatique sur les lesbiennes?
Ben parce que, bon, j'avais une amie que je connaissais depuis avant mon mariage. Et puis j'avais une amie dont la fille était lesbienne. Et elle n'a jamais voulu une fille intelligente, là. Une femme intelligente, très éduquée, très instruite. Quand je lui parlais de sa fille, elle me disait, ne me parle pas d'elle. C'est avec une rage. Et ça, je trouvais ça injuste. Je trouvais ça injuste. Alors j'ai écrit dans l'espoir qu'elle le regarde. Elle m'en a jamais parlé. Et quand elle est morte, elle a fait un ACV, un petit, et je suis allée la voir. Puis elle m'a dit, j'ai été injuste avec ma fille. Mais oui, mais tu sais, t'attends ta mort pour dire ça, là.
Ouais.
C'est pas le temps, là. Mais c'était... Elle pensait qu'elle avait été une mauvaise mère, que c'était pour ça. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec toi. Voyons donc.
C'est ça, les parents se sentent coupables.
Ils se sentent coupables. Tu sais, c'est une fille de Québec qui a joué. Elle était tellement bonne dans la mère, là. Puis c'était ça que... C'était ça. C'est normal. C'est normal de dire, je veux pour ma fille... Je veux pas que ma fille appartienne à une minorité.
Ouais.
Tu sais, je veux que... C'est un peu normal aussi.
C'est ça, les parents ont peut-être peur aussi de la vie qu'on va avoir.
Oui, c'est ça. Tu sais, faut comprendre, là, que tu veux toujours le mieux. Et puis, tu viens... Et on vient tous de là, de ce temps où l'Église était complètement, on vivait sous la férule de l'Église.
Oui.
Qui nous disait que c'était mal, que c'était un péché. Puis, on a été très influencés. Ça a été très difficile de sortir de là. Alors, c'est sûr que les parents, ils connaissent souvent pas grand-chose à la vie, en dehors du mariage, qui se disent, bon, ben, elle suivra pas ma voie. Alors, faut comprendre les parents aussi. Puis, comme on n'en parlait pas, c'était pire.
C'est ça.
Parce que tu te trouvais comme avec une maladie rare, là, tu sais. Non, ma fille, elle, non, tu sais, elle va faire sa vie. Puis, c'est sûr que être lesbienne, je trouve ça, moi, pas facile. Plus qu'être gay. Qu'être homme, parce que être femme, déjà, c'est plus difficile qu'être gars. Alors, c'est moins accepté, puis c'est plus. On voudrait donc qu'ils soient toutes mères et rangées, tu sais.
Ouais, on dit souvent qu'on vit une double discrimination.
Oui, double discrimination, exactement. Mm. Exactement. Alors, pour faire ce texte-là, j'étais allée dans un bar rue Saint-Denis, je pense, oui, dans un point du deuxième.
Je pense que ça s'appelait Lilith.
Oui, oui, oui. Puis j'étais allée, c'était un bar dansant, là, tu sais. Puis j'avais parlé à beaucoup, beaucoup. Puis tout venait au même, là, tu sais. On veut tous être aimés de nos parents, puis faire ce que nos parents voudraient qu'on fasse, tu sais. Il y a une douleur, ça.
Oui, absolument.
Puis la discrimination, parce que c'est une fille, parce que les gars pensent que c'est parce qu'elle n'est pas sortie avec moi, parce qu'elle est tombée sur des... Ça, c'est complètement con, là. Tu sais, c'est parce qu'elle n'est pas sortie avec le bon gars.
C'est ça.
Alors, oui, oui. Mais ça a bien changé.
Oui, quand même. Il y a une évolution. Hein? Oui, oui. On est encore un petit peu invisible.
Oui, mais tu sais, c'est tellement beau quand Ariane Moffat dit ma blonde. Tu sais, c'est tellement beau. C'est que les gens le disent maintenant. Il y a des modèles.
C'est ça, qu'elle arrive naturellement sur le tapis rouge avec sa blonde au gala.
Ah, c'est tellement extraordinaire. Puis je l'appelle toujours ma nouvelle amie, là, Debbie Winswipe, qui elle aussi, là, tu sais, elle vit ça tellement calmement que c'est des modèles, ça. Tu sais, on l'aime pour ça, parce qu'elle est tellement franche, puis ouverte, puis qu'elle nous présente sa blonde, puis c'est formidable, tu sais.
C'est formidable qu'on en soit rendu là, absolument.
Ah, ça, c'est, elles font... Puis elles aussi, elles n'ont pas l'impression de t'en faire, tu sais. Parce que quand tu le fais pour des raisons, tu sais, que tu veux plus de justice ou que tu... Comme moi, là, c'est les gens qui me disent qu'est-ce que j'ai fait. Moi, je le faisais pas. Tu sais, c'était simple, moi, dans ma tête, là. Il faut que ça arrête, là. Il faut que ça arrête.
C'est avec le recul que vous voyez l'impact que vous avez eu.
Ah, mais là, je trouve que c'est extraordinaire.
Oui.
C'est extraordinaire, là. Je pense qu'il n'y a plus... Mais au Québec, je pense pas que ce soit partout ailleurs comme ça, là.
Non. Il y a encore beaucoup d'endroits où c'est criminalisé.
Non, mais même moins que ça, moi, j'ai des amis français.
Oui.
Et c'est pas simple, hein? Oh my. On est beaucoup plus ouvert en général maintenant.
Oui. Et est-ce que le sujet de l'homosexualité a été plus difficile à faire accepter que les autres sujets que vous avez abordés?
Non. Moi, j'étais à Télé-Québec, c'était Radio-Québec dans le temps, là.
Oui.
On a critiqué. Jamais. J'avais cette liberté totale que je n'ai plus eu après, pas à Télé-Québec, parce qu'on est parti, parce que sinon, ce rencontre-là, c'est que Télé-Québec a voulu changer, a voulu devenir un poste de nouvelles seulement.
Okay.
Alors, j'ai été mise dehors. Mon chum, qui était décorateur, a été aussi mis dehors, parce qu'il n'y avait plus de dramatique. Alors, après ça, ça a été difficile. Alors, c'est pour ça que, pour avoir la liberté totale, c'est pour ça que j'ai écrit des livres où j'ai la liberté totale de dire ce que je veux.
Et en 2003, vous avez reçu le tout premier prix de lutte contre l'homophobie de la Fondation Émergence.
Oui.
C'était afin de souligner votre contribution exceptionnelle à l'évolution des mentalités au Québec. Avez-vous eu l'impression d'ouvrir des portes dans la communauté hétérosexuelle de l'époque?
Je ne sais pas. Je sens beaucoup d'amour quand je vais à Émergence.
Oui.
Parce que moi, je suis toujours allée. Et puis, tu sais, je suis une alliée.
Oui.
Je suis une alliée depuis toujours. Alors, c'est... Puis maintenant, ils m'ont dit que maintenant, ça s'appellerait le prix Jeannette Bertrand.
Oui.
Alors...
Depuis 2019, le prix allié de la Fondation Émergence a changé de nom pour celui du prix Jeannette Bertrand.
Ben oui.
C'est incroyable. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris?
Ben, j'étais contente, j'étais fière de moi, j'étais fière.
Absolument.
J'étais fière parce que, tu sais, tu peux aussi écrire des choses puis parler, puis que ça rejoint pas les gens. Moi, je sais que je rejoins le public.
Oui.
Alors, et puis ils le savent aussi, ceux qui me disent ça, là, que ça, le prix va s'appeler Jeanne-Bertrand, c'est que j'ai une certaine influence sur le public.
Ah oui.
Alors, si moi, tu sais, quand j'ai là, mes lancements de livres, Debbie vient, et puis, tu sais, je suis fière qu'elle soit là, tu sais. Alors, tu sais, c'est une bonne influence que j'ai sur les gens. J'espère.
Oui. Vous nous avez aidé beaucoup, puis vous continuez à être active.
Ouais.
On va en musique avec Pierre Lapointe et on revient avec notre invitée, Jeanette Bertrand.
Maman, papa, dites-moi comment ça va depuis l'an dernier à Noël, que je n'ai plus de vos nouvelles. Je savais que ça ne vous ferait pas plaisir, mais je vous ai annoncé tout sourire que j'avais rencontré l'amour après quelques longs détours. J'ai vite compris que vous étiez surpris, voire même presque choqué par cette belle annonce heureuse. J'espérais ma joie contagieuse. Qui disiez fièrement m'aimer, pourquoi soudain tout a changé? Je reste le même qu'avant, mais vous qui êtes-vous maintenant? Maman, papa, dites-moi comment ça va depuis l'an dernier à Noël, que je vis au conditionnel, votre amour me manque, c'est fou. Mon quotidien me semble flou. Pourquoi votre silence glacial, la solitude peut faire si mal? Cherchez-vous par quelques moyens à maudire ma vie, mon destin? Est-ce si difficile de voir un homme qui n'a plus peur du noir? Vous m'avez appris tant de choses. Les rôles s'inversent et nous opposent. À mon tour d'être professeur, on ne choisit pas où va son cœur. Maman, papa, dites-moi comment ça va depuis l'an dernier à Noël, que vous jouez à ce jeu cruel. Cette distance me fait souffrir. Vous avez construit un empire où j'incarne une bête, un malfrat, un monstre qu'on montre du doigt. Je n'aime pas vos dieux malveillants qui divisent le monde en deux clans, dictant ce qui est bien ou mal. J'emmerde leur fausse morale. Que j'aime un homme ou une femme ne change pas l'essence de mon âme. Oui, mon monde n'est pas le vôtre, mais c'est bien loin d'être une faute. Maman, papa, dites-moi comment ça va depuis l'an dernier à Noël, que j'attends un signe, un appel. Mon cœur se meurt de vous revoir et je vous le redis ce soir. L'amour est le plus beau trésor, et ceux qui aiment n'auront jamais tort. L'amour est le plus beau trésor, et ceux qui aiment n'auront jamais tort.
Nous sommes de retour avec l'honorable Jeanette Bertrand. Au cours de votre cheminement professionnel, je constate qu'il y a eu un déplacement de votre pratique d'écriture. En fait, vous en parliez tantôt, pourquoi vous vous êtes dirigée davantage vers le livre.
Oui, pour avoir de la liberté.
Et en 2004, vous avez publié votre autobiographie, Ma vie en trois actes, mm-hmm. qui a connu un très grand succès en librairie,
oui.
et dans lequel vous racontez votre histoire et par le fait même la réalité aussi des femmes de votre génération.
Oui. Oui.
Quoi attribuez-vous le succès de cette autobiographie?
Parce que ça, les gens se reconnaissent. Oui. Les gens se reconnaissent. J'ai eu une vie de ce temps-là, de ce temps-là, puis c'était comme ça, puis les gens se reconnaissent. Puis il y a aussi, je crois, qu'ils reconnaissent ma sincérité. Je ne suis pas un rôle, je suis toujours moi-même.
Oui.
Je suis toujours moi-même. Alors, ben c'est C'était ce que je voulais pas faire juste ma vie, je voulais faire ce qui s'était passé pour les femmes à ce moment-là. D'où on sort, d'où on vient. On vient de creux.
Oui, puis c'est important de s'en souvenir.
C'est important de s'en souvenir. T'sais, on n'est pas, c'est pas hier qu'on est né, là. Puis nos parents, ils n'ont pas pu faire mieux parce que, tu sais, quand tu n'as aucune instruction, les petits gars étaient sortis de l'école après leur deuxième, troisième année pour aller travailler au champ. Et les gens n'étaient pas instruits. Donc, pas instruits, tu ne lis pas. Alors, tu ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie. Tu ne peux pas lire dans le journal une lettre d'une lesbienne qui écrit. Mais tu n'as pas d'instruction, donc tu ne lis pas. Je pense que le fait qu'on ait pu s'instruire, que les femmes, on ait pu s'instruire, qu'on se soit aperçu qu'on n'est pas nécessairement horticulteur, croquetier. C'est un métier, là, faire pousser des légumes. Là, on envoyait des pauvres ouvrir des terres de roche. Ça a été un échec total, dont on ne parle jamais. Puis on vient de là. Tu sais, faut pas gratter loin pour trouver notre grand-père illettré, hein?
Ah oui, absolument.
Illettré, là. Il savait écrire son nom, puis, tu sais, c'était ça, là, nos ancêtres. Mm. Tu sais, de nos jours, c'est impensable. C'était comme ça partout. Alors, c'est ça. Et je n'ai pas reçu, vois-tu, je n'ai pas reçu sur 1000, on est rendu à 1000 biographies, j'en ai pas reçu une. Vois-tu, c'était des femmes de 65 ans et plus. Vois-tu, c'est signe que l'homosexualité des filles n'était pas, on ne pensait pas que ça existait. On n'en parle même pas à cette époque-là. Il n'y a pas une lesbienne qui m'a écrit sa biographie.
C'est vrai.
Parce que c'est trop. Non, ça prouve qu'on ne pouvait pas parler de ça.
Puis même encore aujourd'hui, ils n'en parlent pas.
Non, c'est très. Non, mais les biographies que j'ai reçues sont toutes des biographies de gens de 65 ans et plus.
Oui, c'est ça, mais c'est une de mes questions, justement, si vous en aviez reçu de nos aînés LGBT.
J'ai reçu un homme qui a écrit son histoire, qui est l'histoire d'à peu près tous les hommes de cet âge-là. Impossible de le dire. Se cacher, être obligé de se marier, parce que s'il ne se mariait pas, le prêtre venait de fermer le carreau à la confesse. Pourquoi tu ne te maries pas? Alors, il se mariait. Il rendait une femme malheureuse parce que ça ne les intéressait pas. La sexualité avec une femme ne les intéressait pas. Il se cachait. C'était une vie terrible. Alors, tu sais, pourquoi on peut pas parler de choix? Parce que qui choisirait ça? Il n'y a personne qui choisirait ça. Et alors, tu sais, tu nais lesbienne ou gay ou whatever, là, le nom, il faut que tu aies une vie. Il faut que tu aies une vie comme les autres. Et là, moi, je trouve que ça commence. Là, ça commence.
Oui, puis en même temps, ça faisait des mariages un peu gâchés parce que les gens se mariaient quand même.
Ben pas un peu, très. Ben oui, mais oui, les filles aussi se mariaient quand même.
Oui.
Et c'était la honte. C'était la honte. J'ai reçu, ben, il y a un gars qui m'a écrit, un monsieur qui me dit que sa femme était aux femmes, comme c'est écrit. Et puis, quelle honte il a eue, quelle honte sur lui. Comment il s'était trompé. Alors, c'est sûr que le lesbianisme est toujours un peu en arrière de la compréhension. Ça traîne, il y a quelque chose qui fait en sorte que c'est pas aussi bien qu'être gay, gars. Alors, mais la seule façon, je trouve, c'est d'avoir des femmes, des lesbiennes, qui ont le courage de le dire et qui sont des modèles.
Oui, c'est important.
Ça, c'est un grand, grand pas.
Oui.
Mais ça, il y a beaucoup de filles lesbiennes qui me l'ont dit.
Mm-hmm.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'elles pouvaient s'identifier et que, surtout, qu'elles avaient compris plus les parents. Parce que c'était la première fois qu'on mettait aussi en rapport. Tu sais, c'était pas juste des filles ensemble, là. Ça venait de mon ami, là, qui acceptait pas du tout et qui n'a pas vu sa fille. Et un jour, j'avais fait une bêtise énorme. Un jour que j'étais à la campagne, j'avais invité mon ami et j'ai dit à sa fille, viens avec ta blonde. Devant moi, elle ne dira rien. Elle était tellement fâchée contre moi. Elle a été des semaines sans me parler. Elle a fait comme si l'autre n'existait pas.
Oui, c'était beaucoup ça dans la dramatique. C'était la réaction des parents.
C'est ça. Faire comme si c'était pas vrai.
En 2006, vous avez écrit les paroles d'une chanson pour Céline Dion qui est intitulée Berceuse.
Oui.
Cette chanson-là est gravée sur l'album d'elle qui est sorti en 2007. Qu'est-ce qui vous a inspiré, cette belle chanson?
Oh, c'était Céline. C'était Céline que je connais depuis très longtemps. J'ai connu à ses débuts. Je la rencontrais dans les studios et tout ça. Et puis quand son mari m'a appelée pour faire une chanson, j'ai pensé, elle venait d'avoir son fils. Et puis, comme c'est difficile quand tu viens d'avoir un enfant et que tu quittes pour aller travailler. Parce que moi, je l'ai vécu, ça. je l'ai vécu. Quand j'ai eu Martin, je faisais une émission qui a duré 6 ans, qui s'appelait « Toi et moi » à Radio-Canada et au début de la télévision. Et c'est difficile de s'arracher pour aller travailler. Alors c'était ça, la berceuse, c'était comme c'est difficile de s'arracher à un enfant pour aller travailler.
On va l'écouter.
Merci.
Te réveiller, je voulais juste t'embrasser, te regarder encore une fois pour t'emporter avec moi là où je vais chanter. Maman t'aime, maman.
Nous sommes toujours avec Mme Jeannette Bertrand. Vous avez enseigné l'écriture dramatique pendant 20 ans à l'UNIS.
Oui, oui.
Et comme vous carburez au projet, vous en avez parlé un petit peu tantôt. L'an passé, vous avez mis sur pied le projet Écrire sa vie. Mm-hmm. Est-ce que vous avez aimé l'expérience et quel impact croyez-vous que ça a eu sur nos aînés?
Ah, c'est énorme, 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 énorme. D'abord, prouver aux femmes, les femmes en général, on n'a pas beaucoup d'estime de nous. On pense toujours qu'on n'est pas capable. Je suis comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça, qui ont un fond là, tu sais, de sexe inférieur. Tu sais, on est. Simone de Beauvoir a écrit
le deuxième sexe.
Le deuxième sexe. C'est le deuxième sexe. C'est le premier. Le premier, le plus fort, le plus beau, c'est les hommes. Ça a eu de leur donner confiance en elles. Ils sont capables. Écoute, et il y a tout le monde, quand les gens d'un certain âge me disaient, j'aimerais ça écrire ma biographie, mais je fais trop de fautes. Les fautes, là, ça se corrige.
Oui.
Hein? Bon, il y a des correcteurs. Moi, je suis dyslexique, alors je fais plein de fautes de dyslexie. Je suis pas capable d'écrire ça, je suis pas capable d'écrire œuf. Tout partout où il y a deux voyelles d'à côté, là, je suis pas capable. Alors, tu sais, j'ai un correcteur. Alors, il faut pas que ce soit un obstacle. Et elles l'ont fait. Il y a eu 88 % de femmes qui ont écrit.
Donc, plus de femmes que d'hommes.
Ah ben oui, mais oui, 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 oui. Et parce que les femmes, on est plus psychologiques, tu sais. Mm. Les hommes, habituellement, pas toujours, habituellement, ils vont écrire leur biographie, ils vont écrire ce qu'ils ont accompli. J'ai été 2 ans chef de... j'ai été 3 ans à telle affaire. Alors que les femmes vont écrire leur ressenti. Ah, ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire pour moi. Écoute, je pensais pas toutes les lire, là. Il y en avait partout. Mon chum m'a photographié avec une pile énorme. Alors, l'été passé, je pensais en lire 2-3. Écoute, j'en lisais 3 par jour. Wow. Je n'ai fait que ça tout l'été. Parce que c'était passionnant.
Oui.
C'est notre histoire. C'est d'où l'on vient.
Puis les gens, vous les envoyez naturellement?
Non, ils passaient par l'Institut de gériatrie de Montréal.
OK.
Avantage, ça m'arrivait par email. Et puis l'Institut de gériatrie me les copiait parce que c'est plus fatigant de lire sur l'ordinateur que de lire sur des pages, là. Alors, j'en ai lu 500. 500 dans mon été, je faisais ça à journée longue.
C'est immense.
Parce que j'apprenais. Puis j'ai des projets encore pour ça, là. Je sais pas, c'est pas fini cette affaire-là. Parce que c'est notre histoire.
Puis les capsules sont encore disponibles, je pense.
Les capsules, oui, elles sont disponibles sur centreavantage.ca. qui est le site de l'Institut de gériatrie. Et elles sont sur YouTube, je pense.
Oui, c'est ça, je les ai vues.
Oui, sur YouTube, oui. Alors, si vous voulez vous lancer, ils sont sur YouTube.
Oui, on va aller en musique?
Oui, moi j'adore Desjardins.
Richard Desjardins?
Ah, oui. C'est tellement bon, ces chansons.
Est-ce qu'il y en a une en particulier?
Ah, ben tu m'aimes-tu, qui est la plus belle?
Ton dos parfait comme un désert quand la tempête passe sur nos corps. Un grain de beauté où je m'en vais boire. Moi, je reste là, les yeux ouverts sur un mystère pendant que toi, tu dors. Comme un trésor au fond de la mer. Je suis comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait comprendre avant de manquer d'air. Il est midi moins quart et la femme de ménage est dans le corridor pour briser les mirages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un cadeau de la mort, un envoi du ciel. J'en crois pas mon corps. T'es une prisonnière en permission, qu'importe le partenaire. Je dois être le vrai porteur à ton père. Une daredevil, Nefertiti des sensations, c'est toute ta philosophie. D'aller coucher avec un homme taillé. Moi, te dis à ta chum, check le goc des lunettes. Je vais te gager un rhum que j'y fixe le squelette. Il est midi moins 5 et la femme de ménage est là pour faire rien que compter les naufrages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un paquebot géant dans chambre à coucher. L'océan qui veut toucher ton pied. Que je l'ai jeté sauve à vie dans quelque pays, dans une vie antérieure. La fois que je t'ai dit va pas à Pompéi, c'est quoi d'abord si c'est pas ça, c'est à cause d'un gars qui te tordu le cœur. j't'arriverai avant que tu meurs. C'est pas pour mon argent, ni pour ma beauté, ni pour mon talent, tu voulais-tu me tuer? Les midis tapants et la femme de ménage, à cognant hurlant, je veux changer de personnage. T'es tellement, tellement, tellement belle. Je vais bénir la rue, je vais brûler l'hôtel.
Nous sommes de retour avec notre invitée, Mme Jeannette Bertrand. Quels ont été vos modèles féministes?
Mes modèles féministes, ça a été Simone de Beauvoir, parce que j'en connaissais pas ici. Un drôle de modèle, c'est qu'au début de la télévision et de la radio, les femmes avaient peu de chances d'être employées. On n'employait que des gars, parce qu'on était persuadés que les gars étaient meilleurs que les filles. Et il y avait une fille qui s'appelait Laurette Auger, une femme, et qui s'appelait Jean Després. Elle avait changé de nom, elle avait pris le nom d'un gars, d'un homme, pour pouvoir avoir des émissions. C'est vous dire comment j'étais en maudit. Elle écrivait des radioromans.
Mais je pense que ça vous est arrivé, ça aussi, à vous.
Ben moi, j'écrivais « Quelle famille », j'écrivais « Toi et moi », et mon mari devait signer, parce que je ne l'aurais pas eu. Mais il y a eu un moment où ça avait un peu changé et où j'ai dit à mon mari que je voulais signer seule. Et là, tout le monde savait à Radio-Canada que c'était moi qui écrivais les textes. Alors, j'ai signé seule et je pense que mon mari ne me l'a jamais pardonné. Non, mais c'est un homme de son temps aussi.
Ouais.
Tu sais, il faut dire que les hommes, ils ont été conditionnés. Si nous, on a été conditionnés à être de second rang, les hommes étaient conditionnés à être de premier rang.
Donc, vous n'avez pas eu de modèle féministe québécois?
Pas du tout. Non, non, non. C'est Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir plus les injustices dans ma famille, les injustices autour de moi. J'étais à l'université. Ma première job, c'est un professeur qui me l'offre parce que c'était pendant la guerre et il y avait peu de monde à l'université. Et il y a un professeur qui me dit « Pourriez-vous écrire pour moi des choses? » Alors, je dis oui, oui, oui. Et c'était ma première paye. Il m'aurait payé. Alors, je devais lui apporter un après-midi où j'avais cours à l'Université de Montréal. C'était la deuxième année de l'Université de Montréal. Et puis, j'arrive. Et puis, le professeur vient me voir. Il me dit, pouvez-vous attendre à ce soir? Parce que là, je ne peux pas. Bon, moi, j'ai dit oui. J'étais très fine. Je voulais tellement continuer à travailler avec lui. Puis, alors que le soir, je suis entrée. Puis, il a sauté sur moi. Alors, je suis ressortie en me disant, moi, je ne suis que des seins et des fesses. C'est ça que je suis. Et c'est ça qui m'a tant révoltée. Non, je ne suis pas que ça. Je vais leur montrer que je ne suis pas que ça.
Et vous l'avez très bien démontré. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver un jour à l'égalité entre les sexes?
Oh, ça va être dur. Ça va être dur. La preuve, les féminicides, c'est une vengeance. C'est une vengeance inconsciente. Les femmes, vous êtes arrivées à devenir mairesse, à devenir présidente de compagnie. Eh bien, ça ne marchera pas comme ça. Et c'est très... Mais ce qui me rassure, les hommes viennent depuis quelques années de découvrir la paternité. Ils ne s'étaient jamais occupés des enfants. Ils s'en occupaient pour les punir, pour en être fiers quand ils étaient prêtres ou médecins. Mais le gars ordinaire, il y avait peu de chances que son père soit fier de lui. Là, maintenant, il y a une grosse vague là, de gars qui sont des vraies mères avec leurs enfants, comme il aurait dû être des vrais pères. Mais alors ça, moi, j'ai de l'espoir. Oui, j'ai de l'espoir.
Et selon vous, quelles sont les plus grandes avancées que le Québec a connues pour les femmes depuis le 20e siècle et qu'est-ce qu'il reste à faire?
D'après moi, si je peux me tromper, là, d'après moi, la grande avancée, c'est qu'un jour, le pape, je ne sais pas qui, là, a dit que c'était péché d'empêcher la famille. Et sans se consulter, les femmes, on a cessé d'aller à l'église. Les églises se sont vidées parce que les hommes, ils allaient à l'église beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, mon père, il venait à l'église, il rentrait, puis il allait fumer. Il fallait qu'il aille fumer dehors. Puis là, il se rencontrait tout un groupe d'hommes qui fumaient, puis il rentrait après, vers la fin de la messe. Puis il était à la messe. C'était ça beaucoup. Mais alors que le fait que l'Église, on a lâché l'Église, ça c'est un tournant. Et la deuxième, c'est le rapport parent qui a permis aux femmes de s'instruire. Ce sont les grandes avancées.
Et dans ce qui reste à faire?
Ce qui reste à faire. Il reste beaucoup de choses à faire.
Oui.
Il reste beaucoup de choses à faire. C'est encore... Mais tu sais, les conditionnements, c'est difficile pour les filles d'enlever les conditionnements. Alors, c'est difficile pour les gars aussi. Tu sais, le conditionnement qu'eux autres peuvent tout faire, puis que c'est correct, puis que tu sais qu'ils sont les premiers, puis que c'est mieux être gars, puis que être fille, puis que les mères sont encore à tellement espérer un garçon et pas des filles. Alors, tu sais, c'est profond, ces choses-là. Mais je pense que ça change. J'ai l'impression que ça change. Sinon, j'aurais tout fait ça pour rien.
Vous n'avez pas tout fait ça pour rien. On en voit les résultats aujourd'hui.
Oui, mais pas aussi vite que je voudrais, mais ça avance quand même.
Oui.
Ah oui, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir. D'espoir pour qu'on devienne égaux, j'espère. Mais ça prend du temps. Changer une société qui date de Cro-Magnon, depuis Cro-Magnon que les hommes dominent les femmes. Et je pense que quand on aura l'égalité, les hommes vont être contents. Ils vont être contents. Et que l'homophobie contre les lesbiennes va cesser complètement. Parce que là, c'est difficile pour les hommes de dire « Elles, elles se passent de nous autres. Elles n'ont pas besoin de nous autres pour avoir du plaisir. » Alors, c'est très dur. C'est très, très dur. C'est comme une entaille à leur virilité. Alors, quand il y aura l'égalité, je pense que l'homophobie va diminuer de beaucoup, beaucoup.
Pour conclure, vous avez sûrement des projets à venir. Est-ce que vous voulez nous en parler?
Oui! Oui, oui.
Vous êtes extraordinaire.
Oh mon Dieu! Moi, j'ai toujours tellement de projets. Bon, d'abord, Le viol ordinaire,
oui,
qui a été mon livre l'année passée. Je fais une suite. Et puis, qui donne beaucoup d'espoir aussi. Alors, je suis en train d'écrire la suite. Il va sortir en novembre. Et puis, après ça, j'ai d'autres projets. Mais c'est trop tôt pour en parler. En tout cas, ça ne marche pas. Ça me tente de le dire, par exemple, mais je ne peux pas parler.
Un immense merci.
Merci beaucoup. Merci. Je suis ravie d'avoir fait cette interview.
Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à Jeannette Bertrand d'avoir accepté l'invitation. Merci à Laurent Brou. On va se laisser avec Des mots de femme de Laurent Jalbert, qui sera suivi par Je n'irai pas ailleurs de France Amour. À très bientôt.
Moi je le dis avec des mots de femme et je veux plus jamais entendre. Et puis après, oh, des mots déjà entendus, des mots qui n'en pouvaient plus d'entendre et entend toujours et après. Des mots bien réfléchis, des phrases bien gonflées, comme ces ventres de femmes prêtes à éclater. Et je lève la tête en hommage à celles qui ont fait qu'aujourd'hui je l'ai ma place. Moi je le dis avec des mots de femmes et je veux plus jamais entendre. Et puis après, oh, des mots déjà entendus, des mots qui n'en pouvaient plus d'entendre et entendre. Et après, et les filles, tout ce qu'on a pu subir, tout ce qu'on peut endurer, au nom de la beauté et la féminité. Et je baisse ce matin ton hommage en mémoire de celles qui l'ont défriché ma place. Moi je le dis avec des mots de femme et je veux plus jamais, jamais entendre. Et puis après, penser, ceux qui croient que je suis tout cela exagéré, c'est de ma voix qui casse, qui déraille, en mémoire de celles qui l'ont défriché ma place. Moi Et je le dis avec des mots de femme et je veux plus jamais entendre. Et puis après, oh, des mots déjà entendus, des mots qui n'en pouvaient plus d'entendre et entendre toujours et après, d'entendre et entendre toujours et après.
help us spread the word. CKUT is looking for someone to join our team as the chair of the board of directors. Our board of directors reads the fine print, approves the annual budget, engages in community outreach, and keeps CKUT's eye on the bigger picture. The board meets for 2 hours every month, and the chair circulates agendas, keeps meetings organized, and acts as a liaison between the outside world and the board. If you're passionate about the station, this is an opportunity to help lead CKUT into a new era of community media. For more information, please send a message to admin@ckut.ca.
Get ready! The legendary Barris Hammond returns!
Every time I think of saying goodbye.
Saturday, July 27th, inside L'Olympia Concert Hall, downtown Montreal. This is an early evening show, so bring your mother, auntie, sister, and granny. We're all going to see Uncle Barris.
When you're wrapped up in my arms.
Doors open at 6:30 p.m. Early bird tickets on sale now at BarrisHammondMontreal.com. Barris Hammond, Saturday, July 27th, live in Montreal.
CKUT 90.3 FM is proud to present the Project XT Trio, featuring Kevane Wayne Space, better known as R.P. Boo, the legendary pioneer of Chicago footwork, DJing, Seymour Wright on saxophone, Paul Abbott on drums. Taking place Sunday, May 19th, 5 p.m., the 40th Festival International de Musique Actuelle.